associations,
économie,
culture,
actualité,
emploi,
sport,
loisirs,
social,
santé.
Radio Bulle vous donne la parole dans la quotidienne, du lundi au vendredi, sur le 93.6.
Radio Bulle 93.6.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission sur le 93.6. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Lagrave. Elle a créé en novembre 2018 la maison d'édition Interstice Édition du côté de Bonne Encontre, du désir de découvrir ou redécouvrir des auteurs peu représentés ailleurs. On la retrouve d'ici quelques minutes, accompagnée de Patrick Planès qui anime cette émission à mes côtés aujourd'hui, juste après votre météo locale.
C'est la météo. Sur Radio Bulle, c'est la météo.
Radio Bulle, 93.6.
Pour cet après-midi, de la grisaille, de la pluie, des averses sont prévues sur la Genêt. La pluie devrait se calmer ce soir et laisser place à quelques éclaircies. Côté température, de la douceur avec 10 degrés cet après-midi et 10 degrés ce soir. Concernant la météo de demain matin, toujours de la grisaille et quelques pluies sont à prévoir sur le Lot-et-Garonne. On garde le parapluie à portée de main puisque ça ne va pas s'arranger l'après-midi. Côté température, un petit 7 degrés est prévu le matin et 11 degrés l'après-midi.
Vous écoutez la quotidienne, sur Radio Bulle.
Radio Bulle, 93.6.
Bonjour Nathalie Lagrave.
Bonjour.
Et bonjour Patrick Planès.
Bonjour. Et finalement, on s'en fout de la grisaille et de la pluie, parce que là, franchement, on va se réchauffer un peu avec les éditions Interstice. Donc Nathalie, je suis ravi de vous retrouver, parce que on vous avez reçu il y a environ un an pour la publication de la BD... de Jean-Marc Dollfuss, Pauvre Humanité, le tome 1, Le Chemin des Dames. Alors, évidemment, nombreux sont ceux qui attendent, je suppose déjà, le tome 2, qui est prévu pour très prochainement.
Oui, très prochainement. Il était prévu, en fait, au mois de novembre dernier.
Mais... Malheureusement, la pandémie est passée par là.
Voilà, donc tout a été décalé. Et normalement, si tout va bien, il sera donc dans les librairies au mois de mars.
Mars, donc le mois prochain.
Bientôt.
Ouais, oui. c'est bien rapide. Alors, quels ont été les retours que vous avez pu avoir déjà sur le tome 1 ?
De très bons retours, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est une BD qui a bien marché. C'est vrai, il y a un horizon d'attente avec ce tome 1, Le Chemin des Dames. Le tome 2 va plutôt se positionner sur le front d'Orient. Donc, on pense qu'en 1917-1918, la guerre s'achève, mais en Macédoine, en Grèce, ça continue.
Ouais, les hostilités continuent. Ça s'est même très, très mal passé, notamment pour les troupes anglaises. Mais les Français aussi y étaient.
Tout à fait. Et donc, le grand-père de l'auteur a poursuivi, en fait, son aventure, entre guillemets, pendant la guerre, dans cette région d'Europe.
Ouais. Donc, tome 2, donc, puisqu'on est déjà 1917 jusqu'à, grosso modo, 18 et puis même un peu 19, puisque après, il y a quand même eu une période assez dramatique en 1919, notamment par la libération des camps. Ça se terminera donc avec le tome 2 ?
Oui, c'est un diptyque. Donc il y a deux tomes, voilà, c'est terminé.
Au niveau des ventes, est-ce que vous avez pu déjà faire un bilan ?
Oui, on a bien vendu. Après... on attend peut-être donc l'année prochaine pour essayer de réunir les deux BD, ouais. Et donc faire une réédition justement du premier tome.
Ah oui, vous pensez déjà à une réédition ?
Peut-être. Voilà, mais c'est pour l'instant on se focalise sur la sortie du tome 2.
D'accord. Voilà. Alors, on ne va pas parler que de la bande dessinée, parce que les éditions Interstice se valent généralistes, bien que par son identité et le nom qu'elle porte, elle s'y mise dans des domaines qui, disons que les autres éditeurs traditionnels n'exploitent pas vraiment. Votre deuxième production, La main de l'innocent, en est un exemple typique. C'est un formidable essai sur les meurtres les plus intolérables qui soient, puisqu'il s'agit de ceux des enfants. Et à mon sens, c'est un livre majeur par l'humanité qu'il s'en dégage. Je pense notamment à la façon dont l'auteur relie des œuvres ou en tout cas des textes d'Hugo, de Michel Foucault, de Giono. C'est vraiment un magnifique livre. Alors comment s'est passée cette édition? Comment cette aventure est tombée dans l'escarcelle d'Intercis Édition?
C'est une belle histoire en fait. Jean Viviès, donc l'auteur du livre,
qui n'est pas n'importe qui,
est un universitaire qui s'occupe plutôt de littérature anglophone, littérature de voyage. S'est intéressé depuis longtemps à ces affaires de justice qui ont défrayé la chronique pendant le XXe siècle. Lui-même a été touché en fait. Par ces affaires-là. Et ce texte est né du souhait de relier sa vie personnelle. Donc c'est un peu une autobiographie, mais en même temps c'est un essai, c'est une réflexion sur l'innocence, sur le fait que ces affaires en fait touchent effectivement des enfants, mais sont aussi perpétrées par des jeunes gens. Et donc on se pose la question de la culpabilité.
Oui, notamment à travers le pullover rouge, le livre de comment s'appelait-il déjà ?
Ranucci.
Donc effectivement, on a quand même guillotiné quelqu'un dont on n'est pas certain qu'il soit coupable.
Tout à fait. Il s'intéresse aussi au langage et à l'écart en fait qu'il y a entre la langue des coupables, des présumés coupables, et la langue de la justice. Et donc il y a un écart tellement grand,
un fossé
qui fait que parfois il y a des incompréhensions, parfois ça va même jusqu'à des erreurs judiciaires. Et Jean Viviès arrive à, de manière très très sensible, à lier tous ces événements, à essayer de faire des passerelles à travers effectivement des écrivains aussi, des philosophes.
Oui, parce qu'il parle d'affaires, par exemple, qui est bien antérieure. Je pense à, par exemple, celle de la fille d'Hugo. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Giono.
Oui. C'est un livre effectivement à part, qu'on ne peut pas qualifier d'essai philosophique, on ne peut pas le qualifier de biographie, ce n'est pas non plus une œuvre de fiction, ce n'est pas une œuvre historique aussi à proprement parler, c'est un peu tout ça.
Et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on se prend en tant que lecteur, qu'on se prend au texte, qu'on s'y agrippe, parce que c'est, finalement ça se lit comme un roman.
Oui, et puis parce que c'est extrêmement sensible, extrêmement psychologique aussi. Ça a des résonances profondes. En fait, l'auteur réagit à des événements qui ont eu un fort impact sur la société de l'époque, sur sa génération aussi. Et,
oui, là, il y a l'affaire Dreyfus notamment.
Ouais. Aussi.
Oui, et on sent alors un fort impact dans la société, mais aussi on sent que lui aussi, ça a été très très dur pour lui.
Ah oui, personnellement, ça l'a touché et il a souhaité faire ses passerelles littéraires aussi pour prendre un peu de distance aussi et essayer de... pas forcément de comprendre, mais d'approcher un petit peu ces phénomènes-là qui sont indicibles, en fait.
Ouais. Alors c'est en plus, une fois de plus, un très bel ouvrage. Et d'ailleurs, je trouve que le choix de la couverture est très bien choisi, puisqu'en fait, c'est un tableau c'est Le Garçon de Modigliani qui avait été peint au début un peu avant la guerre de 14. Tiens, on y revient. C'est vous qui avez pensé à ce tableau ?
C'est à chaque fois, on a une vraie conversation, un vrai échange avec l'auteur. Donc c'est aussi avec l'auteur qu'on a choisi la première de couverture.
Ouais, très bel ouvrage. En tout cas, moi, je l'ai lu et j'ai trouvé vraiment magnifique. Et en tout cas, c'est un livre que je conseille. Alors, de même qu'on parlait tout à l'heure des ventes de la bande dessinée, est-ce que Jean Viviès a bien marché ?
Malheureusement, non, ça n'a pas bien marché parce qu'il est sorti en fait au mois de décembre 2019, fin décembre. Et du coup, nous, on comptait sur le début de l'année pour promouvoir cet ouvrage. Et c'est tombé en plein dans le confinement, avec fermeture de tous les lieux culturels, y compris les librairies à cette époque-là.
Oui.
Du coup, ça a été effectivement très compliqué de promouvoir cet ouvrage et de lui donner vraiment sa place. Donc, on pense que cette année, ça va être une année du renouveau pour ce livre, puisque c'est quand même l'anniversaire, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Et ce livre apporte aussi un éclairage par rapport à ce moment précis en 81 où les dernières condamnations à mort ont eu lieu.
Vous avez eu des retours quand même des libraires ?
Oui, un petit, oui, bien sûr, on a un petit peu. De toute façon, il a été diffusé dans toutes les librairies. Mais c'est vrai que c'était comme beaucoup de livres qui sont parus à ce moment-là, ça a été compliqué.
Ouais. Mm. Ouais, puis évidemment, on a toujours les têtes de gondole qui raflent la mise. Et malheureusement, c'est pas évident. C'est pas évident pour sortir. Mais je le conseille, franchement, je le conseille. C'est un livre. C'est presque un livre de chevet.
Mais c'est vraiment un beau livre. C'est une petite pépite, en fait, parce que il est à la fois. En fait, c'est une trajectoire historique qui nous est présentée. Et puis, c'est quelque chose aussi d'extrêmement sensible. On est happé, en fait, par la lecture de ce livre-là. Et même pour des plus jeunes générations, ça permet aussi de s'approcher d'une mémoire un peu collective par rapport à ces affaires.
Très bien. Voilà. Donc, on répète le titre ?
Oui, c'est « La main de l'innocent » de Jean Viviès.
Quel est le coût ?
C'est un livre qui coûte 16 euros.
Très bien. On va passer donc maintenant à, je dirais, les nouveautés en quelque sorte. Alors, on va d'abord parler de Nathalie Vincent-Arnaud. Par exemple.
Oui, peut-être on peut parler de la collection.
Alors voilà, c'est
d'abord.
Nathalie, c'est la première qui. Non, c'est pas la
en
première.
En fait, ils sont parus. En fait, il s'agit de trois recueils de poésie qui sont parus en même temps. On a souhaité lancer une collection de poésie qui s'appelle Nos Lisières. Et donc cette collection, elle s'est préparée, elle s'est développée un peu dans nos esprits pendant le confinement, justement. Et elle est sortie donc au mois d'octobre dernier.
Et un très très beau travail, parce que c'est des livres magnifiques. Et il faudrait peut-être parler aussi de Art et Caractère, qui vous soutiennent un peu dans la publication de ces ouvrages.
Oui, on a un partenaire privilégié qui s'appelle Art et Caractère. C'est une imprimerie qui se situe à Lavore et qui nous a effectivement accompagnés depuis le début. On privilégie depuis le début donc un imprimeur français qui sont pas très très loin de chez nous. Et vraiment, on a eu le bonheur de travailler avec eux. Sont des professionnels très exigeants et en même temps très attentifs à notre particularité, notre maison d'édition. Donc c'est vrai que on est très heureux de travailler avec eux.
Oui, parce que le travail est franchement remarquable. C'est un très très beau papier, c'est la police de caractère utilisée est magnifique, la mise en page également. Donc franchement, on va dire que... que je suis peut-être que j'exagère un peu, mais non, franchement, c'est très très beau livre. On va reparler de cette collection dans la seconde partie, et plus particulièrement donc des auteurs que vous avez choisi d'éditer pour cette nouvelle collection.
Oui, Patrick, on fait une petite pause musicale avec une chanson que vous avez choisie, Nathalie Lagrave. C'est Pomme avec Je sais pas danser. On se retrouve dans quelques minutes, toujours dans la quotidienne, sur Radio Bulle, pour notre émission consacrée à Interstice Édition.
Quand les lumières brûlent tout,
la quotidienne,
la quotidienne
sur Radio Bulle.
Radio Bulle 93.6.
La quotidienne sur Radio Bulle, Nathalie Lagrave est notre invitée. Elle représente les éditions Interstice et est au micro de Patrick Planès.
Alors on parlait des éditions Interstice, mais plus particulièrement donc de la nouvelle collection de poésie sonore à travers trois livres. Dans une nouvelle collection, Nos Lisières. Alors d'abord Nos Lisières, pourquoi ?
Nos Lisières, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est une continuité par rapport au nom de notre maison d'édition, Interstice Édition. Donc Nos Lisières, les lisières, les frontières.
Ouais. Ouais, c'est un
état un petit peu particulier, un espace... privilégié, mais on ne sait pas trop jusqu'où il va, enfin quelles sont ses limites, quelles sont voilà, c'est donc c'est un espace un petit peu incertain, et on nous a en même temps c'est un espace favorable aussi à la création, et un peu mystérieux, et donc ça nous a semblé convenir pour un nom de collection de poésie. Et voilà, c'est nos espaces à nous, un petit peu mystérieux, c'est les vôtres aussi, et voilà.
Et alors, autre terme, la poésie sonore. Alors, pour un éditeur de livres, ça peut quand même un peu choquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Mais la poésie, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui doit s'échapper aussi un petit peu du livre. Et c'est une parole aussi, et du coup on a envie de mettre tout ça quand même dans un livre, et on a eu cette idée donc de faire lire certains des poèmes de chaque recueil par l'auteur, et de retranscrire donc ces extraits. On va pouvoir les retrouver grâce à un QR code qui se trouve sur la jaquette du livre. Donc voilà, en flashant, moyen moderne, en flashant avec son téléphone le QR code, on peut retrouver des extraits de la publication, donc lus par l'auteur. C'est pour ça que voilà, c'est de la poésie sonore, c'est de la poésie qui vibre, la poésie vivante.
Excellente voilà. Idée, excellente idée. Alors effectivement, on aurait pu d'ailleurs donner un exemple là, on aurait flashé le code et puis on vous aurait fait entendre. Mais non, non, il faut que chaque personne achète un des livres ou les trois livres et s'amuse précisément à écouter la voix de l'auteur. Parce que finalement, c'est quand même important d'écouter la poésie et surtout quand c'est l'auteur même du poème qui la déclame.
Oui, c'est un petit peu un cadeau, hein. C'est un don aussi, en plus de l'écrit. Voilà, c'est des petites bulles, des petites bulles poétiques qui sont proposées.
Alors, autre particularité, c'est que la jaquette peut s'enlever, et donc on retrouve donc évidemment la couverture du livre, et la couverture du livre est toujours, bien évidemment, illustrée.
Oui, c'est un choix aussi qui est donné, donc on a proposé à l'auteur de choisir une illustration, donc un tableau, un extrait de tableau, voilà, pour la couverture. Et donc ça fait comme une petite fenêtre,
ce qui est pas bête parce que ça donne une identité. Ouais, ça donne une unicité aux trois volumes, puisque effectivement, du coup, la jaquette est toujours plus ou moins de la même forme, mais avec cette petite ouverture qui donne accès finalement à l'illustration. C'est très très bien trouvé. Mes félicitations. On va parler d'abord peut-être de Nathalie Vincent Arnaud ou Charlotte Calmis. On va plutôt parler de Charlotte Calmis. Je sais pas pourquoi, mais oui. Je pense que ça va m'intéresser.
Alors, donc, il y a trois auteurs pour cette nouvelle collection et effectivement un auteur qui n'est plus parmi nous. Donc, c'est Charlotte Calmis qui est une peintre, plasticienne, donc du XXe siècle, hein, et elle a cette particularité, c'est que elle a fait beaucoup de collages aussi, et elle s'est aussi beaucoup investie pour la cause des femmes. Voilà, c'est une féministe. Une artiste féministe, mais qui pensait que la parole des femmes devait être entendue. Elle a appartenu donc à un collectif elle a créé un collectif pour rendre cette parole plus audible, plus dynamique. Voilà.
Alors, cet ouvrage, lui, est présenté par Marie-Jo Bonnet.
Oui. Marie-Jo Bonnet, en fait, c'est une historienne. Elle s'intéresse beaucoup à la résistance. Elle était très proche aussi de Charlotte Calmis. C'était vraiment une amie très chère. Et c'est elle, en fait, qui nous a aidés à développer ce projet. Voilà.
Alors, c'est de la poésie, mais c'est... C'est plus large que peut-être pour la poésie. Dans certains cas, on retrouve des textes qui sont assez d'avant-garde, finalement.
Oui.
Parce que ça, là aussi, on casse tous les codes.
Tout à fait. À son époque, c'était très, effectivement très nouveau. Et c'est une parole... une parole de femme et quelqu'un qui était très engagé dans cet art aussi de la poésie. Donc en plus de ses talents de peintre, elle avait cette volonté de développer une œuvre poétique aussi.
Alors là aussi, donc, encore un travail remarquable, un aspect du travail remarquable que vous faites, puisqu'il y a une très très belle, très bonne bibliographie, les écrits en général de Charlotte Kalmis, mais également tout ce qui a été écrit sur elle. À noter quand même que le dessin de la couverture est précisément une œuvre graphique de Charlotte Kalmis. On va quand même toucher, parce que finalement le temps passe très très vite, on va parler aussi des deux autres auteurs qui font partie de la collection.
Oui, juste avant de passer aux deux autres auteurs, c'est vrai que cette auteure, Charlotte Kalmis, n'est pas connue aujourd'hui. On a eu vraiment envie de la présenter à travers cette préface de l'historienne, oui, Marie-Jo Bonnet. Voilà. Après, donc, les deux autres recueils sont des recueils d'auteurs de notre région.
Franck Ferrati.
Franck Ferrati, qui est musicien, qui est musicologue et qui a rédigé ce recueil sur le vif avec des poèmes d'une forme particulière. Puisque, voilà, ils évoquent en fait les calligrammes chers à Apollinaire et on retrouve donc des formes de différents objets en rapport avec le titre de ces poèmes-là. Donc c'est vraiment une poésie. À chaque fois, ce sont des univers extrêmement originaux, différents et... Donc voilà, le travail de Franck Ferrati est un travail qui est justement en relation directe avec la musique, avec l'héritage de tous ces musiciens qui l'ont façonné, voilà.
Oui, on retrouve pas mal d'instruments de musique, flûte, piano, carillon. On retrouve aussi Gainsbourg, par exemple. C'est étonnant. Cantilène, voilà. Je tombe sur un cantilène qui est. Alors bon, je vais pas en lire. Mais j'en ai déjà regardé quelques-uns. Là aussi, je pense que c'est très très grande surprise.
Voilà, ce sont des poèmes qui sont très éclectiques, qui font appel à des musiciens. On va dire classique, mais aussi des musiciens et des compositeurs ou des artistes très contemporains. Donc il y a pas du tout de hiérarchie, tout ça se mêle harmonieusement.
Mêlé à l'ancolie, c'est dans Mélancolie. Donc ça c'était Franck Ferrati. Alors la troisième, puisqu'on en est au troisième ouvrage, Nathalie Vincent Arnaud.
Nathalie Vincent-Arnaud et Clé d'août. Donc Nathalie Vincent-Arnaud est une universitaire et une traductrice, une universitaire de Toulouse. Elle s'intéresse beaucoup à la littérature anglophone aussi. Et à travers ce recueil, elle explore une saison qui, normalement, on pense qu'elle est lumineuse, mais l'été dont il est question est plus différent, a des tonalités en fait plus sombres peut-être aussi, plus mystérieuses et invite à réfléchir en fait avec elle à des temps comme ça de vacances, voilà, au sens multiple.
Dans la préface, vous parlez de parenthèse et vous parlez de l'été. Oui. Alors, là aussi, une présentation. Et alors, je suppose qu'il n'y a pas... C'est un premier ouvrage ?
Oui.
Ouais, donc, voilà. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. On va parler, bien sûr, on va revenir tout à l'heure pour parler de vos projets.
D'accord.
Oui, alors on va faire une petite pause musicale dans deux petites minutes, mais juste avant, on fait un point sur l'actualité locale avec Samia.
Radio Bulle. L'info du jour.
Allez, il va falloir prendre son mal en patience si vous devez prendre le train. Attendez-vous à quelques perturbations. La voie est coupée au sud de Mont-Saint-Front-Libos sur la ligne SNCF Périgueux-Agen. Sur place, un effondrement est à déplorer. Du coup, des cars de remplacement sont mis en place sur une partie d'itinéraire. Trois allers-retours sont donc assurés du lundi au vendredi sur l'itinéraire complet avec un changement à Mont-Saint-Front et une partie du trajet est effectuée en bus. Une situation qui devrait durer plusieurs semaines. Alors, suite aux inondations, la solidarité est de mise dans la région et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à nettoyer notamment. La mairie de Tonneins demande l'aide de bénévoles de la Croix-Rouge. À Jussix, le maire lance un appel à la solidarité pour un couple qui a tout perdu. Si vous voulez faire votre bonne action de l'année, une page Facebook s'est montée, je vous la donne. C'est Solidarité Inondation 47 et puis l'association La Table Ronde de Marmande a mis en ligne une cagnotte pour aider les sinistrés. Un papa placé en garde à vue ce week-end à Tonneins. Alors je vous explique la chose très simplement. Il avait laissé traîner une boulette de cannabis chez lui. Sauf que son petit de 1 an est passé par là et qu'il l'a avalé. Le papa a donc appelé les pompiers. Le petit va bien, rassurez-vous. Il est resté en observation au centre hospitalier d'Agen. Et puis son papa, âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Tonneins pour mise en danger d'autrui. Le sport, une bonne nouvelle. Du côté du SUA, les derniers tests PCR n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs. Du coup, les joueurs reprennent l'entraînement aujourd'hui. Ils vont pouvoir se préparer à recevoir Clermont. Le match est prévu samedi. Pour rappel, les Agenais sont à l'arrêt depuis le mercredi 27 janvier suite à 3 cas positifs concernant des joueurs qui avaient affronté Toulouse.
Radio Bulle. Radio Bulle. Radio Bulle, la radio de l'Agenais.
Merci à Samia qu'on retrouve du lundi au vendredi de 8h à 11h dans Ça Pétille. Allez, on fait une nouvelle pause musicale avec une chanson sélectionnée par Patrick, qui est très content. C'est Bruce Springsteen avec One Step Up. On se retrouve d'ici quelques minutes pour continuer notre émission, la quotidienne consacrée aujourd'hui à Interstice Édition.
Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out, hopped in my old Ford. Hit the engine, buddy, she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately. We ain't learning. We're the same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. Bird on a wire outside my motel room, but he ain't singing. Girl in white inside a church in June, but the church bells ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps. It's the same thing night on night. Who's wrong, baby, who's right? Another fight and I slam the door on. Another battle in that dirty little war. When I look at myself, I don't see the man I wanted to be. Somewhere along the line I slipped off track. Moving one step. Get the message she's sending. She ain't looking to marry me, honey, I'm pretending. Last night I dreamed I held you in my arms. The music was never ending. We danced as the evening sky faded to black. One step up and two steps back.
step up and you step up. One step, one step.
La quotidienne, la quotidienne sur Radio Bulle. Sur
Radio Bulle. Radio Bulle 93.6.
La quotidienne sur Radio Bulle. Notre invitée aujourd'hui est Nathalie Lagrave des éditions Interstice. De Bonne Encontre.
Alors on vient d'entendre le boss là qui nous a chanté un pas en avant. Et ben vous c'est pareil, c'est un pas en avant avec des nouveautés prévues pour le printemps.
Oui. Une nouveauté, une très grande nouveauté. En fait, il s'agit de la réédition d'un roman de Jean Desbordes. Ce roman qui s'appelle Les Forcenés était paru d'abord en 1937, donc chez Gallimard. Et on a décidé donc de le rééditer. Jean Desbordes, il faut parler un petit peu de lui. Donc Jean Desbordes, c'était un écrivain. Contemporain donc, et ami de Jean Cocteau et de Max Jacob. C'était aussi quelqu'un qui a fait partie de la résistance, donc une résistance un petit peu confidentielle, c'était la résistance polonaise. Et jusqu'au bout, il a été un résistant assez extraordinaire puisqu'il a été arrêté par la Gestapo et torturé. Il n'a jamais dit un seul mot sur son groupe de résistance. Il n'a jamais trahi personne. Et il est mort vraiment torturé de manière extrêmement épouvantable par la Gestapo en 1944. Donc il avait 38 ans. Et c'est vrai que ça nous a semblé extrêmement injuste que cette personnalité ne soit pas mise en avant, que ce soit dans les livres d'histoire, que ce soit dans les livres d'histoire littéraire aussi. Et voilà, on a eu cette envie de montrer qui était Jean Desbordes à travers donc la réédition de ce roman.
Et alors, pourquoi ce roman? Parce que Gallimard, c'était d'abord c'était dans la collection Blanche.
C'était à l'époque, je ne suis pas certaine que c'était la collection Blanche, mais c'était un roman, qui a bien marché à cette époque-là. Mais après, on n'a plus de réédition de cette œuvre.
Il n'y a plus jamais eu de réédition d'une œuvre quelle qu'elle soit de Jean Desbordes.
Si, une autre œuvre de lui, c'est Grasset qui a réédité un recueil de nouvelles qui s'appelle J'adore. Donc oui, ça a été réédité, mais pas son œuvre de roman.
Alors pourquoi Les Forcenés?
Alors Les Forcenés, en fait, c'est une histoire d'amour tragique. Hein. Entre un jeune homme et une femme un peu plus âgée. Pourquoi ce titre? Il a longtemps hésité, Jean Desbordes, à donner ce titre. Il avait pensé à d'autres titres. Et Les Forcenés... Pourquoi? On peut imaginer plusieurs idées, mais c'est l'idée aussi d'une force renouvelée aussi, peut-être. Voilà.
Et c'est pour cette raison que vous avez choisi ce texte-là plutôt que, qu'un autre roman ?
Oui, enfin, notamment.
Très bien. Alors, on peut en parler quand même du roman ? Donc une histoire d'amour ?
Oui, c'est une histoire d'amour tragique. Voilà, avec des éléments autobiographiques aussi.
Oui.
Par rapport à la vie de Jean Desbordes. Après, je pense qu'il faut, il faut le découvrir. Il ne faut pas non plus trop en dire.
Bon, très voilà. Bien. On n'ira pas plus loin. Est-ce qu'il y a quand même un petit lien, parce qu'on a parlé de Max Jacob, Cocteau, etc. Il y a un peu quelques, un à côté surréaliste ? Non ?
Non, pas forcément par rapport à cet ouvrage-là. Non. Après, on a pour ce livre-là, on a été aussi beaucoup accompagné par Marie-Jo Bonnet, qui donc est une spécialiste de la résistance, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art pour Charlotte Kalmis, mais aussi de la résistance. Et elle était vraiment très très proche aussi donc de ce moment tragique où il a perdu la vie, et elle a fait des recherches très très fouillées sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle a étudié les minutes du procès qui ont suivi son assassinat, en fait. Hein.
Est-ce qu'elle fera une présentation du roman dans votre...
Oui, il y aura une préface... Une préface très développée donc de la part de Marie-Jo Bonnet sur donc la personnalité de Jean Desbordes, son histoire et la fin de sa vie tragique.
Donc voilà. Alors ce roman est prévu pour
le mois d'avril.
Avril, oui. Donc d'ici 2 mois.
Oui.
Alors on en a parlé tout au début de l'émission, le mois de mars, donc dans un mois, c'est la publication du deuxième tome de notre ami Jean-Marc Dolfus, oui. Pauvre humanité. Donc on en a parlé, on ne va pas revenir dessus, si ce n'est qu'il va clore donc, le diptyque. Est-ce que vous avez d'autres projets ?
Alors, on a effectivement d'autres projets, mais encore une fois, à cause des conditions sanitaires, de la pandémie, tout a été décalé. Et du coup, on a des projets, mais on ne peut plus accueillir de nouveaux projets avant le deuxième trimestre 2022. Voilà.
Ah oui, effectivement. Oui.
Donc là, pour l'instant, on a des projets qui sont bien avancés, mais voilà, on ne peut pas aller au-delà pour l'instant de nos capacités, voilà, vraiment.
Bon, ben, tant pis, qu'y faire.
Mais tant pis, tant mieux, parce que nous, on essaye d'aller vraiment, d'accompagner les auteurs, de faire des ouvrages avec sérieux et aussi beaucoup de passion. Donc... les choses vont comme elles viennent, et puis on continuera de toute façon à accueillir de nouveaux projets, mais il nous faut le temps.
Oui, bah vous avez déjà aussi l'expérience de l'année 2020, parce que finalement vous avez quand même publié 5 ouvrages. Donc 5 ouvrages pour une toute petite maison d'édition qui vient d'émerger donc, dans le Lot-et-Garonne. C'est déjà pas mal. Donc 2 ouvrages pour 2021, et je suppose donc un gros travail pour préparer ceux de 2022. Oui. Et là, la pandémie donc aura disparu.
Tant mieux.
Et il y aura un florilège donc de publications pour 2022.
Voilà, il y aura un nouveau souffle, on espère, vraiment, pour la culture.
Nathalie Lagrave, merci beaucoup en tout cas. Donc je rappelle que actuellement vous avez en librairie donc de Jean-Marc Dolfus Pauvre humanité, le tome 1 Chemin des dames. Vous avez également donc, ça on en a longuement parlé et je le reconseille donc à tous nos auditeurs, de Jean Viviès La main de l'innocent. Et enfin dans la collection Mémoire sonore, Nos Lisières, Charlotte Calmise, Gaïa et autres poèmes, Nathalie Vincent-Arnaud, Clé d'août, et Franck Ferrati, Sur le vif. Donc, les interstices éditions dans toutes les bonnes librairies. Merci.
Merci beaucoup, Radio Bulle.
À bientôt.
Merci beaucoup Nathalie Lagrave, merci Patrick Planès. C'est la fin de votre quotidienne, cette émission sera rediffusée à 17h et sera à retrouver en podcast sur radiobulle.net. Sur Radio Bulle aujourd'hui à 19h, ne loupez pas l'émission Chute, on écoute la télé. Et à 22h, c'est l'heure de votre émission Rock, British Connection. Allez demain retrouver Aurélie dans la quotidienne, elle recevra Thomas Zamboni, adjoint au maire en charge du défi citoyen et de la vie des quartiers, pour une émission consacrée à l'élection des conseils de quartier de la ville d'Agen. Donc rendez-vous à midi et 17h sur Radio Bulle. Allez passer une très bonne journée à l'écoute du 93.6.
C'était la quotidienne.
C'était la quotidienne.
Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiobulle.net.
Radio Bulle 93.6.